Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59. Très très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et 8h, tout pile, le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'assistant parlementaire d'un député insoumis en garde à vue avec 8 autres personnes interpellées hier après la mort d'un militant nationaliste à Lyon. Le retour de la pluie redouté ce matin dans les 4 départements. Vigilance rouge au cru, nous irons en Charente-Maritime dans un quartier qui se réveille les pieds dans l'eau ce matin. Et une 17e médaille pour les Bleus espérée aux Jeux de Milan-Cortina. Pour les Françaises engagées sur le relais en biathlon, elles souhaitent le même destin que les hommes sacrés hier.
Première nuit en garde à vue pour 9 suspects dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque.
7 hommes et 2 femmes âgés d'une vingtaine d'années, proches de l'ultra-gauche. Ils ont été interpellés hier dans plusieurs départements, la Haute-Loire, l'Aisne, l'Isère ou encore la Drôme. Romain Cluzel, service politique, nous rejoint ce matin. Parmi ces suspects, Romain, un nom sort du lot. C'est celui de Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise.
Exactement, Jacques-Élie Favreau a rejoint l'équipe du député après son élection à l'été 2024. Un jeune homme très discret sur les réseaux sociaux. On sait qu'il a milité dans un syndicat étudiant rattaché à la CGT quand il étudiait à Saint-Étienne. Jacques-Élie Favreau était aussi un membre de la Jeune Garde, le groupuscule antifasciste cofondé justement par Raphaël Arnaud et dissous l'été dernier. Hier, Raphaël Arnaud a lancé une procédure pour mettre fin au contrat de Jacques-Élie Favreau. Une procédure lancée avant même son interpellation, explique le député. Par la voix de son avocat, Jacques-Élie Favreau nie formellement être responsable de la mort de Quentin Derenque. Hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu réagit à cette interpellation et appelle à nouveau la France Insoumise à faire le ménage dans ses rangs. Et il y a quelques minutes, la porte-parole du gouvernement appelle LFI à exclure temporairement le député Raphaël Arnaud du groupe parlementaire.
Les précisions de Romain Cluzel, Jacques-Élie Favreau et 8 autres personnes sont donc en garde à vue ce matin à Lyon, sur place en direct. Julie Bro, service police-justice pour RMC. C'est vous qui suivez cette enquête avec un objectif au cœur des prochaines heures de garde à vue déterminée. Julie, le rôle et l'implication de chaque suspect dans le lynchage à mort du militant nationaliste.
Oui, les enquêteurs vont notamment concentrer leurs efforts autour de 6 suspects principaux. 6 hommes âgés d'une vingtaine d'années qui étaient sur place jeudi dernier à proximité de Sciences Po quand les affrontements ont éclaté. Durant leur garde à vue, ils vont notamment être confrontés aux vidéos témoins filmées par des riverains, des images sur lesquelles les policiers pensent les avoir identifiés comme ceux qui ont porté des coups de pied et de poing, notamment à la tête de Quentin Derenque. À ce stade, une chose est sûre, ces 6 hommes ont tous été identifiés comme des proches de l'ultra-gauche. Certains sont même connu pour avoir appartenu à la Jeune Garde, ce groupe antifasciste cofondé par l'insoumis Raphaël Arnaud et dissous l'été dernier. Un militantisme qui sera d'ailleurs lui aussi passé au crible et questionné, notamment auprès de 2 autres personnes interpellées, des proches des suspects, pas directement liés aux faits de violence, mais susceptibles désormais d'apporter des éléments à l'enquête.
Julie Bro, service police-justice envoyé spécial ce matin à Lyon pour RMC.
Il est 8h03. D'abord, ne manquez pas, effectivement, tout à l'heure à 8h30 dans le face-à-face, la réaction du président, l'ancien président de la République, François Hollande. Ça se passera dans le face-à-face. Et à 8h03, après Nils la semaine dernière, Thibault, c'est encore une nouvelle tempête qui débarque en France.
Le répit n'aura été que de courte durée. Pedro arrive et va entraîner de nouvelles perturbations aujourd'hui, demain, avec des cumuls de pluie importants sur des sols déjà gorgés d'eau, une pluie incessante, 35 jours que ça dure, c'est un record en France. 4 départements sont en alerte maximale au cru, la Charente-Maritime s'est ajoutée à la liste. Hier, Amélie Courtet, vous êtes sur place ce matin pour RMC du côté de Sainte, au cœur d'un quartier inondé.
Oui, de nombreuses rues comme celle où je me situe sont inaccessibles ou uniquement par barque, alors que je ne suis même pas au bord du fleuve, la Charente, qui a débordé. Ici, il faut s'armer d'équilibre pour accéder aux maisons car des poutres ont remplacé les trottoirs et il vaut mieux ne pas tomber car l'eau arrive à la taille à certains endroits. Je vois même des poutres au loin qui finissent par flotter. C'est vous dire le niveau. On a vraiment atteint un pic record ces derniers jours à Sainte. L'eau devrait dépasser les 6,40 m en fin de journée. C'est 30 cm de plus que le niveau de la dernière crue en 2023. 900 maisons sont inondées, environ 200 personnes évacuées, principalement chez des proches, même si un centre d'hébergement a été mis en place par la mairie. Le niveau de l'eau devrait rester stable aujourd'hui et demain, malgré une faible pluie, car plus que le ciel, c'est la mer qu'on surveille ici. La mer et ses marées, avec des coefficients élevés prévus dans les prochains jours. Et le problème, quand la mer monte, c'est que ça crée comme un bouchon à l'embouchure des fleuves, ce qui empêche ici la Charente d'évacuer.
Amélie Courtet à Saintes en direct pour RMC ce matin. De l'eau dans l'ouest et une accalmie de courte durée sur les massifs. La vigilance aux avalanches a été levée. Des coulées de neige mortelles hier. 3 personnes ont été tuées dans les Hautes-Alpes et en Savoie. À Nîmes, l'émotion ce matin au lendemain de la mort d'un enfant. Un garçon de 8 ans percuté par un chauffard sans permis sur le chemin de l'école. 6 personnes ont été interpellées. Parmi eux, le chauffeur présumé du véhicule, un adolescent de seulement 17 ans. Émotion très vive ce matin dans le quartier Pisvin, vous vous êtes rendu sur place, Anna Jojard.
Devant l'école du jeune garçon, Sophia a besoin de parler de ce qu'il s'est passé.
C'est un choc pour tout le quartier. Depuis ce matin, ça en parle. Je me mets à la place de la maman. Ça peut arriver à toute autre personne que la maman qui a vécu ça.
Cette jeune femme connaissait bien l'enfant qui a été renversé.
Il est dans la classe à mon petit frère. Donc quand il me voit, il me disait bonjour. C'était un amour, c'était un ange. Il avait tout pour lui. Il faisait pas de méchanceté.
Un choc aussi pour les enfants de l'école. La fille de Lina était dans la même classe que la victime. Alors depuis qu'elle a appris pour l'accident,
belle pleure. Elle a manger à midi, voilà. Elle est très émue, elle comprend pas. C'est des enfants, hein. Déjà, nous, on le vit très très mal. Alors nos enfants, on trouve pas les mots, tout simplement.
Le jeune garçon a été percuté alors qu'il était sur un passage piéton. Sylvia dénonce des véhicules qui roulent souvent trop vite sur cette avenue.
C'était à prévoir, je suis désolée, parce que les passages piétons ici, personne ne les respecte. Moi-même, j'ai failli me faire renverser à plusieurs reprises. C'est pour vous dire à quel point les gens roulent vite, n'ont aucun respect.
Des parents qui demandent plus de contrôle dans ce quartier et des dodanes pour obliger les conducteurs à ralentir.
16 médailles ce matin au compteur du clan tricolore aux Jeux de Milan Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Et c'est un record grâce à un quatuor en or. Les garçons du relais en biathlon, sacré champion olympique hier, inspirant pour les Françaises qui vont tenter d'en faire de même cet après-midi sur le relais dames. Julien Richard, vous êtes en Terselva ce matin. Vous serez au commentaire de la course à vivre sur RMC cet après-midi avec des Françaises plus que favorites, Julien.
Ah oui, tout autre métal que l'or serait une déception, nous disait même le patron du biathlon français Stéphane Boutiot. C'est tout le paradoxe de cette équipe féminine qui a traversé des tempêtes, hein, mais qui a su passer au-dessus des affaires pour se concentrer sur le sportif. Les Françaises dominent le monde depuis 3 saisons. Elles sont doubles championnes du monde en titre de ce relais, portée par une densité folle, une densité dont a fait les frais Justine Brezaz Boucher, pourtant un des piliers de ce relais, présente sur les 2 titres mondiaux, mais la championne olympique de la Mastart il y a 4 ans vit des jeux largement au-dessous de son niveau. Elle doit laisser sa place à la petite nouvelle, Camille Benet, qui lancera le relais tout à l'heure, suivi des 3 médaillés individuels ici en Italie, la numéro 1 mondiale Lou Jean Monod, Océane Michelon et Julia Simon.
Et tout ça, ce sera à vivre sur RMC à partir de 14h45. Vous l'avez vécu aussi sur notre antenne hier soir. La victoire du PSG face à Monaco, barrage aller de Ligue des Champions, menée 2-0. Les Parisiens s'imposent finalement 3-2 grâce à Désiré Doué, critiqué ces derniers temps. Le Parisien qui a remplacé Dembélé, blessé, a marqué par 2 fois, prestation saluée par l'entraîneur Luis Enrique.
Je suis très content pour Des parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs. Et en ce moment, il a été sensationnel. Il a montré quel caractère, quelle personnalité comme joueur. Il est très bien, mais a une personnalité spéciale et je suis très content pour lui. Il a aidé l'équipe dans les meilleurs moments et c'est très important pour nous.
Et c'est important parce qu'il y aura le match retour mercredi prochain. Ce sera au Parc des Princes.
C'était le journal de Thibaut Texer à 8h08. On parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, les allocations chômage pourraient devenir moins généreuses pour les bénéficiaires d'une rupture conventionnelle.
Effectivement, patronat et syndicats ont encore une semaine pour s'entendre sur le financement de l'assurance chômage. Alors le MEDEF, la CPME et l'UDP ont adressé aux syndicats de nouvelles propositions. L'idée, c'est de réaliser 1 milliard d'euros d'économies. Bon, le gouvernement n'en demande que 400 millions, mais tant qu'on y est, pourquoi ne pas pousser le curseur un peu plus loin. La proposition phare, c'est le durcissement des conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'une rupture conventionnelle. Ils ne seraient plus logés à la même enseigne que les autres demandeurs d'emploi, comme c'est le cas aujourd'hui.
Quelles sont les règles qui pourraient changer donc ?
Alors, le patronat, il veut durcir leurs droits. Donc, la durée d'indemnisation maximale du chômage aujourd'hui, c'est 24 mois quand vous avez moins de 55 ans, c'est 36 mois pour les plus âgés, eh bien, il s'agirait de réduire cette durée d'indemnisation maximale de 24 à 20 mois pour les moins de 55 ans et de 36 à 30 mois pour les plus âgés. Le patronat suggère aussi de baisser le seuil de revenus à partir duquel il y a une dégressivité des allocations de 30%. Vous savez que c'était réservé pour les revenus supérieurs à 4 940 euros bruts mensuels. Eh bien, ce seuil, là aussi, serait abaissé.
Alors, pourquoi pénaliser les bénéficiaires des ruptures conventionnelles ?
Bah parce que ce mode de séparation entre un salarié et son entreprise a explosé et son coût avec, plus de 9 milliards d'euros, c'est un quart de l'ensemble des dépenses de l'assurance chômage. Assurance chômage à qui on a finalement demandé de financer des démissions déguisées ou des licenciements économiques. Et puis, il y a quand même des abus. Hein. Ceux qui signent une rupture conventionnelle sont globalement plus jeunes, plus qualifiés et donc susceptibles de retrouver un emploi plus rapidement que les autres chômeurs, sauf qu'ils sont indemnisés en moyenne plus longtemps que les autres. Alors attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il faut rappeler que 15 à 20% des ruptures conventionnelles débouchent sur des créations d'entreprises et que la moitié des chefs d'entreprise actuels ont créé leur entreprise en bénéficiant des aides de l'assurance chômage. Donc un petit tour de vis, pourquoi pas, mais pas touche à la philosophie du système.
Merci Emmanuel, il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint comme chaque matin pour notre plus grand plaisir. À 8h30, notez-le, mon invité dans le face-à-face, c'est l'ancien président de la République, actuel député de Corrèze, François Hollande. Ce sera sa première réaction depuis que LFI et la Jeune Garde sont visés dans l'enquête sur la mort du jeune Quentin. Juste après, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. C'est tous les jours, 8h50 sur RMC. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant. Il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour.
Et pour notre plus grand plaisir, Arnaud Demanche qui est avec nous, 8h14.
Mais c'est mon plus grand plaisir, ouais. Apolline. C'est mon plus grand plaisir. Non, bonjour à tous. Oh, c'est vous. Non, c'est moi. Ce matin, la France se réveille encore sous les eaux. La Garonne est en crue. La Garonne, c'est vraiment la seule qui arrive à quitter son lit sans difficulté. En ce moment. On est tous éclatés. On est fatigués. Les nerfs à vif. Hein. Mm. Surtout en ce moment, l'actu est pas marrante avec la mort de Quentin Derenc, que ça tend tout le monde. Hier, 9 personnes ont été interpellées, dont l'assistant parlementaire du député LFiste Raphaël Arnaud. Ça devait être sympa, la garde vue. Lui, la police tue. Oui, vous aussi. Ah bah du coup, on est collègues. C'est pas au RN qu'on verrait les assistants parlementaires européens impliqués dans une rixe. Hein, surtout à Bruxelles, et pour cause, ils ont jamais mis les pieds, donc ça marcherait pas. Depuis jeudi, c'est la bonne foi qui règne chez tout le monde, surtout chez les insoumis. C'est pas nous! Alors qu'on sait tous depuis le départ que les agresseurs faisaient partie de la Jeune Garde. C'est-à-dire que l'extrême droite et l'extrême gauche qui se tapent dessus, c'est pas une nouveauté, quoi. Et y a que eux pour faire ça. Nous, les gens civilisés, on fait pas ça. Avec Mathieu, quand on a un désaccord politique, on règle ça à Mario Kart, et puis voilà, ça suffit. Voilà. T'entends jamais qu'il y a eu une rixe entre les jeunes avec Cazeneuve et le fan club de Xavier Bertrand. Mmh. Alors,
qui est qui?
Il n'y a pas de jeunes avec Cazeneuve, et personne n'est fan de Xavier Bertrand, mais vous voyez l'idée.
Oui, bien
quoi.
Sûr, on l'a.
Mathilde Panot a demandé à ce que les féministes d'extrême droite du groupe Némésis soient tenues à l'écart des conférences des Insoumis, parce qu'elle a peur, je cite, que ça finisse mal.
Ah oui.
Elle était là. C'est pas notre faute.
Non.
Quand elles sont là, on a envie de les taper. On y est pour rien. C'est comme avec les fachos du Parti communiste et ces fascistes d'écolo et Olivier Faure, ce nazi. Faut arrêter de nous provoquer aussi avec vos idées là de démocratie et de respect ou je sais pas quoi.
Ah, évidemment, voilà,
et,
c'est ça.
Et de l'ogu. Et de l'ogu. Faut arrêter avec les idées. En plus, ça fait mal à la tête. Et alors, du côté de l'extrême droite, mauvaise foi à tous les étages, c'est pareil. Hier, Marion Maréchal nous a quand même expliqué que la violence d'extrême droite est dérisoire. Oui, mais Clément Méric, il a trébuché, c'est pas pareil. Et Federico Arambarou, il a pris 6 balles dans le dos par un militant du GUD. Oui, mais elles ont pas été tirées méchamment, voilà. En attendant, vous savez combien de Français l'extrême gauche a tué l'année dernière? 1,5 million, madame de Malherbe. Faut inviter tout ce beau monde sur RMC Sport de Combat. Ah, c'est oui. Là qu'il faut les mettre. Entre deux bastons du championnat tchétchène de MMA, ça fera pas tâche, hein.
Des perquisitions qui ont eu lieu, donc, chez Jack Lang, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée dans l'affaire Epstein.
Oui, alors, les policiers étaient à l'Institut du Monde Arabe. Monsieur Lang. Vous avez un sarcophage, monsieur Lang? C'est mon lit, jeune homme. Bon, alors, ouvrez votre coffre-fort, s'il vous plaît. Jamais! Ouvrez! Ouvrez! Bah, Il n'y a rien là-dedans, il y a juste votre acte de naissance. Oui, mais je suis coquet, je ne veux pas qu'on connaisse la véritable date de naissance. Pourquoi ? Ah oui, la vache, vous avez 520 ans.
Oui, et pas un cheveu gris. Je
mon secret de beauté, prendre des bains de sang de jeune vierge.
Oh non !
Grâce au régime comme vierge, j'ai perdu 20 ans en un mois. Vous aussi, essayez le régime comme vierge. Et après, la brigade financière a pris le relais. Monsieur Lang, alors reprenons depuis le départ. Mais je comprends rien à votre comptabilité. Il n'y a aucune dépense depuis mai 81. Qu'est-ce que vous appelez une dépense exactement, jeune homme ? Je ne sais pas, des notes de restaurant, des billets d'avion, des factures d'hôtel, de costumes. Ah non, ça j'ai arrêté. De consommer ? Plus rien ? Non, de payer, le payer. C'est bien simple. Je n'ai même pas un billet de 20 francs sur moi. 20 francs nouveaux, hein. Je ne suis pas complètement déconnecté.
Évidemment. Les 10 000 préservatifs du village olympique ont été épuisés en seulement 3 jours.
Et oui, hein, qui aurait pu soupçonner ça ? Moi, je pensais que le Graal pour pécho de la meuf, c'était de faire la guitare sur une plage ou d'être président socialiste. Ça marchait. Et en fait, non. C'était le curling, Apolline. C'était ça, le truc. Et oui, c'est le biathlon, c'est le curling. Quand tu balais de la glace, les femmes se disent « Oh, il comprend la charge mentale. » C'est pour ça qu'il était en larmes l'autre jour, Sturlaholm Lagreid. Vous savez, le biathlète norvégien qui était là « J'ai trompé ma femme. Pardon, Gudrun. Mais il y avait 10 000 capotes et je n'aime pas gâcher, je suis norvégien. » Alors, oui, je suis allé voir Hilda Brund, Lufnilf, Martha Funf, Glockenspiel et Ilgege. Je dis Ilgege.
Ouais.
On dirait des noms de meubles Ikea, mais en fait, il n'a pas monté que des meubles.
Oh.
Après, notre docteur Aurel Gage me disait dans les couloirs, c'est l'hiver aussi. Il faut couvrir les extrémités. Alors, gants, bonnet, capote, étaient parés pour la glisse, sans risquer les gengelures. Voilà.
Ah, voilà.
Bon, allez, on rigole, mais souvenez-vous, à Paris, c'était 200 000 préservatifs, pas 10 000. Donc, à Milan, ils ont dû se dire, personne ne couche avec personne au sport d'hiver.
Je sens que ce soir, je vais conclure.
Mais non, tu vas pas conclure, Jean-Claude. Il fait froid, on est fatigué, on est tous entassés dans un chalet qui sent l'humidité et qui pue l'odeur des pieds quand on fait du ski. On bouffe de la raclette matin, midi et soir. Alors les galipettes au sport d'hiver, bouf, quoi. C'est un miracle que le peuple savoyard ait survécu jusqu'à nous. Hein. Bravo les Savoyards, vous couchez les uns avec les autres, vous êtes plus courageux que nous. Franchement, applaudissements les Savoyards.
Et applaudissements pour Arnaud Demanche. Il est 8h19 sur RMC.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Il est 8h19 et il y a Yacine qui nous a appelé au 3216 depuis l'Essonne. Vous êtes à Vigneux-sur-Seine. Bonjour Yacine. Yacine, étudiant, 24 ans, vous vouliez réagir à ce cataclysme politique, la mort de Quentin à Lyon et un assistant parlementaire d'LFI qui est en garde à vue au moment où l'on se parle.
Tout à fait. Ben écoutez, moi je trouve ça assez navrant de mettre en avant un parti de cette façon-là. Je pense que voilà, c'est aussi une façon de tous les partis politiques d'un peu critiquer et de mettre un peu en avant les mauvais côtés de LFI. Je le dis tout de suite, je ne suis absolument pas électeur de ce parti-là, absolument pas. Mais je pense que voilà, par les temps qui courent, avec les élections qui approchent, aussi bien municipales et présidentielles, je pense que voilà, c'est une façon aussi pour tous les partis, aussi bien de droite, d'extrême droite que du centre, de pouvoir justement se débarrasser d'un adversaire qui potentiellement, je le dit, on va pas se mentir, à les banlieues populaires de son côté, son principal électorat. Voilà, c'est une façon pour eux de pouvoir éventuellement le récupérer.
Je comprends pas ce que vous voulez dire, Yacine. C'est-à-dire que au fond, si l'assistant parlementaire LFI faisait pas partie des personnes qui ont participé, semble-t-il, au lynchage à mort de ce jeune, on n'en parlerait pas. Le problème n'est pas... C'est-à-dire, je veux dire, avoir été cherché... un membre de la jeune garde qui lui-même avait déjà été condamné pour violence et lui donner l'intronisation pour devenir effectivement député élu, que lui ensuite ait choisi de salarier un jeune membre de la jeune garde qui est donc, je vous le rappelle, salarié aujourd'hui de l'Assemblée nationale, c'est peut-être ça le problème, non ?
Mais madame, c'est un des problèmes, bien évidemment, mais moi ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que en fait, on profite
donc
de
on
cette
devrait
situation-là
pas le dire.
On ne sait pas qu'on ne devrait pas le dire, madame, mais c'est qu'on en profite. On m'a vu très bien à l'Assemblée. Vous savez, je suis hier, ce qui s'est passé notamment avec madame Yaël Braun-Pivet qui a exclu justement cette personne-là, justement, de l'hémicycle, voilà, qui ne voulait pas le laisser rentrer, ce que je comprends totalement. Et j'ai vu que tout le monde était contre LFI hier, comme si c'était eux qui étaient, entre guillemets, voilà, responsables de la mort, voilà, toutes mes condoléances d'ailleurs à ce monsieur de ce Quentin, ce que je trouve quand même assez navrant, justement. Je pense que tout le monde en profite.
Mais je ne comprends pas ce qui vous navre.
Ce qui me navre justement, c'est cette situation vraiment chaotique politique. Vraiment, tous les partis politiques profitent justement de cette situation pour mettre.
Pardon, Yacine, mais est-ce que c'est pas navrant que quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je précise que ce jeune homme, il travaille pour un député qui est dans l'hémicycle à Paris et qui est élu du Vaucluse. Donc, il n'avait rien à faire un jeudi soir à Lyon.
Tout à fait, madame. Bien sûr, madame, c'est une des raisons, je ne le nie pas. Mais moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre encore une fois, c'est que la situation politique... Tout à fait, c'est une façon de mettre au porte-à-faux LFI et de s'en séparer, de se dire que voilà, on a un adversaire qui est éliminé. Cette situation profite bien, entre guillemets, malheureusement, à tous les différents partis politiques.
Alors, vous savez quoi, Yacine, justement, je poserai la question dans un instant à mon invité, qui est l'ancien président de la République, François Hollande. Est-ce qu'il dira, effectivement, comme Raphaël Glucksmann hier, qu'il faut rompre définitivement, effectivement, avec la France insoumise. Yacine, j'entends parfaitement effectivement le témoignage et c'est important effectivement que tout le monde puisse réagir sur RMC et RMC Story. Vous estimez que c'est un prétexte en quelque sorte pour rejeter LFI, on l'a bien entendu. Merci à vous, il est 8h23 et comme je viens de vous le dire dans un instant, c'est le face-à-face. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, appelle ce matin la France Insoumise à exclure au moins temporairement de son groupe parlementaire le député LFI Raphaël Arnaud. Son assistant parlementaire Jacques-Élie Favreau fait partie des 9 suspects du meurtre de Quentin Derenque à Lyon. Cet appel lancé ce matin par la procureure de Paris, elle demande à toutes les victimes françaises de l'affaire Epstein à se manifester et annonce l'ouverture de 2 enquêtes. Et la météo, toujours 4 départements en vigilance rouge cru, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 9 autres départements en orange sur la façade atlantique. Il fait de 4 à 19 degrés cet après-midi. 4 à Strasbourg, 7 à Lille, 10 à Dijon. Et la maximale, c'est à Biarritz avec 19 degrés.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, mon invité, c'est l'ancien président de la République, François Hollande. Ça se passe sur RMC BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien président de la République, député socialiste de la Corrèze. 9 personnes interpellées, 4 soupçonnées d'avoir porté des coups mortels à Quentin Derenque. Et l'un d'eux est l'assistant parlementaire, c'est-à-dire le plus proche collaborateur, du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud. Il s'appelle Jacques-Élie Favreau. Sommes-nous à un moment... de bascule pour vous ou à un moment politique majeur?
Nous sommes devant d'abord un drame, la mort d'un jeune homme de 23 ans, dont on ne pouvait pas forcément partager les idées, mais qui ne devait pas mourir pour ses idées. Et puis on est devant une épreuve qui est une épreuve nationale. Peut-on encore admettre que la violence politique dans une démocratie comme la nôtre, qui dégénère d'ailleurs en violence physique, puisse s'installer? La réponse doit être ferme. Non, il n'est pas possible que dans la République, il puisse y avoir des combats de rue qui dégénèrent et un mort, c'est pas le premier, souhaitons que ce soit le dernier, avec des affrontements d'une violence inouïe. Donc c'est la France qui est d'une certaine façon interpellée. Nous devons être fermes et arrêter cette spirale de violence, verbale le plus souvent, qui dégénère dans la violence parlementaire, politique, et puis ensuite qui peut se retrouver dans la rue.
Y a-t-il une responsabilité morale, politique, directe, indirecte de la France insoumise à vos yeux?
Là, il y a une double responsabilité de la France insoumise. La première responsabilité depuis des mois, c'est d'entretenir, pas le seul, mais Jean-Luc Mélenchon et ses amis l'ont fait avec un systématisme qui mérite d'être contesté et condamné, une espèce de brutalité dans l'expression, de dénonciation permanente, de mise en accusation, d'outrance, de formules verbales qui blessent. Alors je dis, ils ne sont pas les seuls. À l'extrême droite, on a aussi ce type de provocation. Mais là, il s'agit d'une volonté de faire qu'il n'y ait plus qu'entre l'extrême droite et cette gauche radicale ou cette extrême gauche, qu'il y ait plus rien, que le débat soit focalisé entre ces formes de brutalité. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir accepté pour un parti supposé dans l'arc républicain, d'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. Et ça, c'était généralement ce qui existait dans les partis extrémistes, où il y avait cette volonté, puisqu'on ne participait pas, aux élections, ou en tout cas qu'on les contestait, d'aller chercher dans la rue ce que l'on n'obtenait pas dans les urnes. Et là, c'est ce qu'a fait le LFI, Rassemblement
National,
dans d'autres époques.
Vous alliez dire,
oui,
le Rassemblement
dans
National.
D'autres époques, mais le Rassemblement National depuis quelques mois.
En fait, ce sont les méthodes du Front National aujourd'hui pour LFI dans votre lapsus.
Oui, mais le Rassemblement National qui s'est essayé à la banalisation, qui a essayé de se distinguer, alors que LFI a été avec la Jeune Garde dans un processus qui était de rechercher éventuellement l'affrontement.
Allez choisir Raphaël Arnaud, cofondateur donc de la Jeune Garde, lui-même déjà condamné pour violence, et lui donner l'investiture, la même que vous. Pardon, mais...
Non, je suis désolé.
Il y a quand même une question qui va se poser, qui est la question de l'alliance.
Oui, j'y viendrai. Mais là, en l'occurrence...
La même étiquette.
Pour l'investiture, il a eu l'étiquette de LFI, il n'a pas eu le soutien du Parti Socialiste qui a présenté un candidat contre lui. Donc les choses...
Vous estimez de ce point de vue-là que le Parti Socialiste a été au rendez-vous?
De ce point de vue-là, il a eu raison. Il n'était pas question de pouvoir soutenir un candidat qui avait eu d'abord une condamnation qui était fichée et qui avait comme but l'affrontement physique comme moyen politique.
On reviendra sur la question des alliances, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une responsabilité. Est-ce que Raphaël Arnaud peut continuer à siéger pour vous à l'Assemblée nationale?
S'il est établi, c'est la justice qui aura à le dire, et sans doute assez rapidement, que un ou plusieurs même de ses collaborateurs sont mis en cause, il devrait en tirer toutes les conséquences.
Quand vous dites un ou plusieurs, vous évoquez sans doute le fait qu'il semble que parmi les personnes qui sont donc en garde à vue depuis hier, il y ait non seulement, et ça s'est avéré, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, mais également probablement l'un de ses anciens stagiaires, c'est ce qui est évoqué. Quand vous dites en tirer les conséquences, est-ce que ça veut dire que c'est Raphaël Arnaud lui-même qui doit prendre la responsabilité de se mettre en retrait, voire même de démissionner, ou est-ce que c'est à la France Insoumise de dire on lui demande de ne plus siéger? Cette procédure avait déjà été faite pour Adrien Quatennens, qui avait été suspendu, Adrien Quatennens, député LFI.
Moi, je ne suis pas... dans le débat de LFI, ça c'est l'affaire de ses dirigeants. Je crois suffisamment grave sur le plan institutionnel quand un député a un collaborateur qui lui-même est partie prenante, nous verrons à quel niveau,
du lynchage,
que sur le plan personnel même, il en tire les conséquences. Enfin, son parti politique peut aussi l'y inciter, mais il y a une responsabilité personnelle.
Pour l'instant, on n'est pas du tout dans le mea culpa. Pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, refuse les accusations, notamment de la part de Sébastien Lecornu, qui a demandé à la présidente du groupe LFI de faire, je cite, le ménage dans ses rangs. Jean-Luc Mélenchon dit hier soir, nous n'acceptons pas les leçons que nous donne le Premier ministre, qui visiblement a pété un câble cet après-midi.
Mais ça fait partie justement de cette méthode, de cette stratégie d'aller jusqu'à la radicalité, de dénoncer, d'accuser. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, d'autres groupes politiques se sont laissés aller. Je pense qu'il y a un moment, c'est peut-être aussi...
Vous appelez à une forme de sursaut
moral.
Oui,
c'est peut-être aussi mon rôle comme ancien président. Il y a une nécessité de mettre un terme à la violence et d'aller vers, non pas l'oubli, non pas l'indifférence, non pas le pardon, rien n'est pardonnable, mais d'aller vers l'apaisement. Nous avons besoin d'une démocratie qui puisse fonctionner avec des clivages, avec des oppositions, avec des contradictions. Et je le dirais d'autant plus que nous sommes dans un environnement international qui est lui-même brutal, qui est violent et où on veut mettre en cause, je parle notamment de ce qui vient des États-Unis et pas seulement des États-Unis, on veut mettre en cause la démocratie. La démocratie, c'est notre bien commun. Donc le rôle des partis politiques aujourd'hui et des personnalités, c'est d'assurer que la démocratie va être préservée. À partir de là, oui, LFI, par les déclarations encore de Jean-Luc Mélenchon hier, contribue à envenimer les choses, répondant à d'autres qui ont également été au-delà de ce que les mots devaient, à mon avis, valoir.
Vous parlez éventuellement même des membres du gouvernement qui ont considéré, ou alors vous pensez à Jordan Bardella qui dit qu'LFI a du sang sur les mains.
Par exemple, il n'a pas été le seul à le dire, je pense qu'il faut là aussi laisser la justice travailler, et même s'il y a là une responsabilité, je l'ai cité, elle est morale, elle est politique. Mais attention de ne pas laisser penser qu'il y aurait là des éléments criminels qui pourraient toucher une formation politique. Donc il est très important de mesurer les mots, mais aussi d'être ferme. Ce que je veux dire par là, c'est que la justice devra aller jusqu'au bout pour aller vers les condamnations qui sont nécessaires. Il faut être ferme quand il y a des groupes qui se mettent dans la rue et font des combats physiques. Ces groupes doivent être dissous. On sait bien que ça ne répond pas tout à fait à la question parce qu'ils se reconstituent. Et les individus doivent être poursuivis parce qu'ils sont dangereux.
Ils sont dangereux, dites-vous. Vous avez évoqué la question de l'arc républicain et je crois avoir entendu lorsque vous avez dit LFI, membre ou supposé membre de l'arc républicain. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce matin, François Hollande, vous dites LFI n'est plus membre de l'arc républicain?
Non, je pense que LFI doit faire la démonstration qu'il se situe dans l'arc républicain. Pas le seul d'ailleurs à en faire la démonstration. Mais qu'est-ce que ça veut dire se situer dans l'arc républicain? Ça veut dire accepter les règles de la démocratie. Et que les partis politiques ne doivent pas entretenir en leur sein des groupes qui ont une méthode qui consiste à faire des combats de rue. Les services d'ordre sont nécessaires, mais pas à faire des actions physiques. Donc le lien entre le LFI et ce qu'a été la Jeune Garde, puisque c'est un mouvement dissous, ce lien-là doit être rompu entièrement. S'il ne l'est pas, le LFI portera une autre responsabilité.
Mes confrères de Quotidien ont fait la démonstration dans leur émission hier soir que la Jeune Garde tenait encore un stand cet été, après sa dissolution, aux universités d'été de LFI. Alors officiellement, c'était un stand de soutien à la Jeune Garde pour contourner la loi, puisqu'ils étaient officiellement dissous. Le lien, il était encore là il y a quelques semaines.
C'est pour ça que ce lien doit être rompu. Et s'il ne l'est pas, nous aurons aussi à en tirer les conséquences.
Est-ce que vous diriez toujours tout sauf le RN?
Dans ce que je dirais, c'est qu'il ne peut pas y avoir, pour les élections qui viennent, quels sont les scrutins qui arrivent, scrutins municipaux, une élection présidentielle. Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au premier tour, c'est déjà établi, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes, ou les formations de la gauche réformiste, et LFI. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que, dans ce qui va être la grande confrontation électorale, la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Si, je vous réponds à votre
question. Non, est-ce qu'au deuxième tour, vous diriez toujours, et pour les élections présidentielles, tout sauf le RN?
Mais au deuxième tour, il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon présent à l'élection. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari.
Vous ferez comment?
Je ferai tout, et je ferai tout d'abord. Non pas pour empêcher, il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit d'offrir une solution pour le pays et pour la gauche française, qui puisse permettre d'avoir une élection présidentielle qui soit, si l'extrême droite est présente, entre l'extrême droite et la gauche réformiste.
Alors que vous-même aviez déjà souvent été l'objet d'injures de la part de Jean-Luc Mélenchon, lors des dernières législatives, vous avez été candidat du Nouveau Front Populaire. Vous aviez dit, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Est-ce que vous le regrettez?
Non. À cette période-là, il y a une dissolution, une menace de l'extrême droite qui pouvait être majoritaire, il fallait faire un barrage. Ce barrage a été établi à partir d'une ligne qui était le refus de la brutalisation politique. LFI a manqué à cette ligne, a manqué ensuite à ses engagements, s'est retrouvé dans une posture négative à l'Assemblée nationale, a accusé d'ailleurs les socialistes de pas avoir censuré le gouvernement, eh bien je considère que la relation avec LFI est terminée.
La relation avec LFI est rompue.
Pour ce qui me
totalement
concerne, elle est rompue.
Pour ce qui vous concerne, la question c'est aussi les alliances. Pardon de tirer ce fil jusqu'au bout, mais entre vous et LFI, il y a Europe Écologie Les Verts. Est-ce que Europe Écologie Les Verts, qui ne rompt pas, en tout cas pour l'heure, avec LFI, peut continuer à être un partenaire avec vous?
C'est à, aux écologistes d'être clairs. Les écologistes font partie de la gauche et ont vocation à pouvoir participer à des alliances avec nous aux élections municipales. Pour l'élection présidentielle, j'y reviens. Je considère que la candidature qui doit venir pour la gauche réformiste n'est pas celle de la primaire avec les écologistes. Est-ce clair?
Il n'est pas question d'une primaire entre le Parti socialiste et Europe Écologie.
Moi, je n'engage pas le Parti Socialiste.
Cette primaire que le Parti Socialiste, Olivier Faure, en tout cas, alors on ne sait pas si c'était au nom du Parti Socialiste ou en son nom propre, a lancé effectivement ce projet de primaire qui doit avoir lieu d'après lui avec même une date qui est le 11 octobre. Pour vous, il n'en est pas question.
Oui, là je m'exprime à titre personnel, mais je crois avec une certaine audience dans le Parti Socialiste et au-delà du Parti Socialiste, il ne peut pas être question de participer à une primaire. Non pas parce qu'il y aurait les écologistes, mais parce que cette ligne-là n'est pas celle qui peut permettre de gagner l'élection présidentielle.
Vous réfléchissez à une candidature?
Je ne parle pas de ma candidature, je
non,
parle...
Non, mais vous-même, dans ce moment, non, vous l'avez dit, de chaos, est-ce que vous réfléchissez à une candidature?
Il n'y a pas de stratégie personnelle. Il faut créer un mouvement collectif. Et si j'ai un appel à lancer, c'est que bien tous ceux qui justement se reconnaissent dans ce que peut être une gauche réformiste qui va largement au-delà du Parti Socialiste, eh bien doivent se rassembler, se réunir et choisir leur candidat.
Je ne vous ai pas demandé si vous étiez candidat. Je vous ai dit, est-ce que vous y réfléchissez?
Je réfléchis à cette méthode-là, je réfléchis à ce rassemblement-là, c'est la condition de toute candidature victorieuse.
Si Europe Écologie Les Verts rompt clairement avec LFI, alors est-ce qu'une alliance avec Europe Écologie Les Verts serait possible?
Non, c'est pas simplement leur rapport avec LFI, c'est un élément. C'est leur rapport sur une ligne politique. Il y a des alliances qui sont au plan local tout à fait possibles, elles sont nombreuses d'ailleurs avec les écologistes, parce qu'il y a un programme qui est commun. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un programme pour un candidat à la présidentielle qui soit commun dans le cadre de cette primaire avec les écologistes et les anciens LFI.
Je vous repose la question parce que s'il y a un deuxième tour, vous dites il n'y aura pas la France insoumise au deuxième tour. Mais c'est une question très fondamentale aujourd'hui de savoir si ce qu'hier vous condamniez, c'est-à-dire le nini de certains, vous apparaît aujourd'hui comme une option envisageable. C'est-à-dire, est-ce que LFI contre RN ou est-ce que ni l'un ni l'autre?
Mais ça ne se produira pas, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est que c'est ce que Mélenchon veut installer. Veut installer le seul débat possible. Vous n'auriez pas le choix. Ce serait ou la gauche radicale ou l'extrême droite. Eh bien, ce ne sera, j'espère, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, ce ne sera pas ce combat-là. Pour battre l'extrême droite, car je suis toujours décidé à ce qu'elle ne vienne pas au pouvoir, non pas simplement pour des questions de principe, c'est déjà beaucoup, mais parce que ce serait destructeur pour notre nation, pour notre pays, pour sa place dans l'Europe. Donc, par rapport à ce combat-là, il faut absolument qu'il y ait une gauche qui écarte LFI, car elle n'a plus vocation à représenter quoi que ce soit comme espérance d'alternance. Et il faut s'élargir autant que possible pour offrir cette possibilité au pays d'avoir un avenir qui puisse être raisonnable et clair.
LFI classé à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, ça vous paraît donc assez raccord avec la lecture que vous en faites?
Ben, s'il fallait faire la démonstration, elle est faite. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'extrême gauche? C'est un mouvement qui entretient en son sein des groupes qui font autre chose que de la participation au scrutin. Donc, si LFI avait voulu faire la preuve qu'il n'était pas d'extrême gauche, bah, c'est raté. Hein.
Vous avez dit que LFI devait faire la démonstration qu'elle est dans l'arc républicain. Est-ce que le RN est dans l'arc républicain?
Non, l'arc républicain ne comporte pas le RN. Quand le RN est sur la discrimination, sur la préférence nationale, quand le RN veut modifier la Constitution, veut mettre en cause gravement l'Union européenne, non, le RN n'est pas dans l'arc républicain. et ne le sera pas davantage dans quelques mois, quel que soit son candidat et quel que soit l'âge de ce candidat.
Une dernière question, François Hollande, sur la question de la menace terroriste. Vous êtes évidemment le président qui était en action au moment des attentats terroristes. Vendredi soir, un homme a tenté d'attaquer des soldats sous l'Arc de Triomphe. Cet homme, il s'appelle Brahim Bahir et il avait été condamné. En 2025, il est sorti de prison. La question de ceux qui sortent de prison, il y en a 46 d'entre eux qui sont sortis en 2025, condamnés pour des faits de terrorisme, et il y en aura encore une trentaine cette année. Est-ce qu'il faut que le suivi soit plus tenu ?
Oui, il faut qu'il soit renforcé. Bon, vous avez des règles dans notre droit pénal. Une fois que la peine est épuisée, la liberté est donnée.
Il avait purgé sa peine.
Il avait purgé sa peine. Mais on ne peut pas faire ce qu'on appelle une sortie sèche. Vous avez été terroriste, vous avez été condamné, vous avez fait votre temps et vous partez. Non, il y a un suivi, il y a un contrôle, il y a une vigilance et il doit y avoir un moment aussi, lorsqu'il y a un défaut pour le contrôle judiciaire, ça devait être le cas pour cet individu, le retour en prison. Il y a une forme de vigilance, mais qui n'est pas une vigilance où on observe, une vigilance d'action, où on empêche.
Votre inquiétude sur le front du...
Oui, moi j'ai deux inquiétudes. J'ai une inquiétude par rapport à ces terroristes qui sont en fin de peine, et j'ai une autre inquiétude, c'est ce qui se passe en Syrie, où suite à ce que les Kurdes n'ont pas pu garder, c'est-à-dire les prisonniers dont certains sont français. Et beaucoup de femmes aussi, eh bien ces prisonniers-là peuvent être en liberté dans quelques temps, ou sont déjà en liberté, et peuvent atteindre notre sol.
Merci François Hollande d'avoir répondu à mes questions ce matin, ancien président de la République. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins pour notre plus grand plaisir, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, François Hollande était mon invité. Il est encore avec nous, monsieur le président.
Ah, écoutez, ce sont de très bonnes habitudes, madame de Malherbe.
Quelles bonnes habitudes ?
Mais celle de m'appeler monsieur le président. Et comme toutes les bonnes habitudes, je vous invite et vous encourage à les conserver, madame de Malherbe. Bref, je ne suis pas là pour rappeler que j'étais président de la République, comme je le fais habituellement toutes les cinq phrases. Puisque je ne le fais pas puisque vous le faites à ma place. Et d'ailleurs, le président de la République que j'étais vous en remercie.
Bah justement, tiens, vous laissez quand même planer le doute sur votre candidature pour 2027, non ?
Non, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne laisse pas planer le doute. Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite remontée, ce sont les viennoiseries. Oui, j'ai un peu tapé dedans. Et c'est vrai qu'à la quatrième, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes. Et vous voyez, j'étais bien inspiré. Oui, donc je disais qu'il n'y a pas de doute. J'ai dit que le candidat de gauche devait soutenir devait soutenir le meilleur candidat. Quand je dis meilleur candidat, vous pensez que je parlais de qui ? De Jérôme Gage, de Boris Vallot. Alors, je sais que nous sommes dans le cadre d'une émission humoristique, mais quand même. Et pourquoi pas aussi Olivier Faure 2027. J'imagine déjà la nièce sur les Champs-Élysées. Non, soyons sérieux. Vous l'avez compris, le moment exige du sérieux.
Alors effectivement, l'actualité est grave. Après la mort de Quentin Derenc, le PS doit-il vraiment rompre avec les Insoumis ?
Les méthodes des Insoumis ne sont pas les méthodes de la gauche à laquelle j'appartiens, madame Le Ballet. Moi, les personnes les plus extrêmes que j'ai côtoyées, c'est Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'une jeune garde puisque j'avais une vieille garde. Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian. Et avec eux, il n'y a jamais eu de débordement violent. Si, peut-être le seul souvenir que j'ai pu avoir, c'est peut-être, oui, une violente envie de dormir lorsqu'il s'exprimait à la tribune.
Merci, monsieur Hollande. Tiens, c'est Galène Royal. Souhaitez venir vous saluer.
Oui, bonjour, madame Royal.
Ça fait drôle, hein, François. Hein, oui. Dis donc, j'ai vérifié dans mes courriels et mes spaumes. Hein. Sauf erreur de ma part, tu ne m'as pas envoyé de message de félicitations pour mon nouveau poste de présidente de l'Algérie.
Attendez, madame Royal, vous n'êtes pas présidente de l'Algérie, vous êtes présidente de l'association France-Algérie.
Oui, bon, bah c'est bon. Hein. Je fais juste comme tout le monde, quand on croise un ex, voilà, on enjolive la situation,
oui, hein,
pour faire bonne figure et montrer que tout va bien. Hein. Vous n'avez jamais fait ça, vous, peut-être? bête, hein. Oui, je suis bête. C'est vrai que vous n'avez pas d'ex, vous n'avez que des prétendants. Oh hein. Oui, toujours tourné vers l'avenir, ligne de mon l'air.
Oui. Enfin bon, merci Madame Royale. Raphaël Glucksmann voulait également vous dire un mot. Dis donc, il se bouscule au portillon, hein.
François, l'électorat sociodémocrate est trop petit pour nous deux. Bon, déjà, il n'est pas très grand, l'électorat sociodémocrate. Il est même trop petit pour nous un. Cher François, c'est à mon tour de briller. Et je le dis avec force, je n'ai pas l'intention, Madame de Malherbe, de partager avec François Hollande cette gloire immense de finir quatrième au premier tour de la présidentielle. Et à ce titre, je donne rendez-vous à François pour un duel au soleil.
Ah oui.
Oui, je préfère un duel au soleil parce qu'un duel sous la pluie, c'est son élément, donc il serait avantagé.
Bien sûr.
Donc rendez-vous samedi à 11h dans le 11e arrondissement, près du bar à Boulgour où j'organise mes rendez-vous. C'est juste à côté du petit bar à Bubble Tea qui fait des macchiato vegan. Donc François, je te défie un défi au Molky. Ouais, vous savez le jeu où on jette des bâtons, un bâton sur d'autres bâtons fait avec du bois issu d'une filière bioéquitable. Et le meilleur emportera le vote des quadras qui mangent des avocados toast et qui écoutent du Théodora en buvant du kombucha maison.
Quel suspense, ce duel. Merci Monsieur Glucksmann. Allez, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Ouais, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer. Je suis comme la Garonne, je sors tous les matins de mon lit pour inonder des milliers de foyers avec ma voix. Allez, c'est parti pour les titres. L'Institut du Monde Arabe a désormais une nouvelle présidente, c'est Anne-Claire Legendre. Et Jack Lang lui a déjà écrit pour la féliciter, lui demander s'il pourrait lui emprunter sa voiture de fonction avec chauffeur et sa carte de cantine. Et puis à Châteauroux, le forcené qui a jeté hier des grenades sur les forces de l'ordre. C'est pas les viennoiseries, c'est l'alcool. Les forces de l'ordre ont été interpellées. Bonne nouvelle, aucune victime à signaler. Deuxième bonne nouvelle, il s'est enfin passé quelque chose à Châteauroux. À
moi. Merci Thibault. Tous les regards sont tournés donc vers Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, il y a quand même des questions à se poser sur votre rapport aux milices violentes de l'ultra-gauche.
J'appelle chacun à garder son calme.
J'appelle chacun à garder son calme
et à ne pas écouter les accusations grotesques qui nous sont faites. Comme si un lien, Madame de Malherbe, existait entre la France insoumise et l'assistant parlementaire d'un député de la France insoumise.
Oui,
je dis non. Et quand bien même ce collaborateur serait impliqué, je rappelle qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que je décide, moi, s'il est coupable ou s'il ne l'est pas. Parce que la justice, c'est moi. Quant à nous qualifier, nous les insoumis, d'extrême gauche, mais c'est grotesque. Nous n'avons rien à voir avec l'extrême gauche. Qui, vous le savez, mieux que quiconque, veut renverser le capitalisme en ouvrant le bide des grands patrons avec une faucille pour les pendre à l'air de leur intestin grêle. Hein? Alors que nous, les gentils insoumis, nous sommes des gens mesurés, pondérés, responsables. Nous voulons juste exiler ces mêmes grands patrons à poil sur l'Antarctique et spolier de tous leurs biens ces jeunes gens, ces messieurs. Et ça, ce n'est pas de la violence, c'est la justice sociale. Voilà.
Ah bah c'est toute la différence. Merci beaucoup. Merci Nicolas, face à Cantelou, parcours évidemment tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant les GG, quel est le programme Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent, elles seront là en pleine forme comme tous les matins pour débattre de l'actualité en direct avec Didier Giraud, notre agriculteur, Zora Bitant qui travaille dans la fonction publique et Joël Dagossiri, notre coach de vie. On reviendra bien sûr sur l'interpellation de ces 9 personnes dans la mort du jeune Quentin. La plupart appartiennent au mouvement La Jeune Garde. Il y a le collaborateur parlementaire d'un député LFI, Raphaël Arnoux. La question est la suivante. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon doit-elle faire le ménage dans ses rangs? On en parlera donc avec nos GG. À tout de suite.